Donc on va passer à la partie de Christophe Dehaye. Pour l'instant, on est resté un peu en dehors de l'entreprise. Bien sûr, on va y rentrer par les questions de Christophe Dehaye, les commentaires, et puis par vos questions. Donc Gérard Berry attend vos interpellations sur le sujet. Donc Christophe Dehaye, vous l'avez déjà vu plusieurs fois. J'ai déjà dit, il avait parlé il y a 3 ans, puis il y a 1 an en soirée. Dans des séminaires, il était intervenu 2 fois. Donc Christophe Dehaye se définit comme observateur impertinent des technologies. Il a créé donc une entreprise qui fait un travail d'analyse de tout ce qui s'écrit sur les nouvelles technologies, et d'où ce qu'on peut lire entre les lignes. Et ensuite, on met au point un commentaire, un show qui est présenté dans des entreprises ou qui a été quelquefois présenté à l'École de Paris. Donc Christophe Dehaye est un familier de l'entreprise, un familier des nouvelles technologies. Et je suppose que c'est à partir de là qu'il a conçu son intervention.
Alors bonsoir, on m'a demandé d'apporter une petite contradiction à Gérard Berry. Alors je suis évidemment très ennuyé parce que je suis d'accord avec tout ce qu'il a dit. Donc comment faire pour apporter une certaine contradiction? Alors l'idée d'inversion est vraiment extrêmement féconde. Donc je vais en fait amener d'autres inversions dans d'autres domaines et notamment dans le domaine de l'entreprise. Et peut-être sur les interprétations, on pourra faire semblant de ne pas être d'accord, histoire de susciter des questions. Alors, que nous dit Gérard Berry? Ce qui est vraiment très important, c'est ce qu'on a dans la tête, c'est-à-dire nos constructions mentales, nos schémas mentaux avec lesquels on perçoit ce monde nouveau. C'est effectivement absolument essentiel. Il y a une expression dont j'ai horreur, c'est le logiciel. Il faudrait changer le logiciel, donc, parce qu'en l'occurrence, dans la tête, je ne suis pas sûr qu'on ait un logiciel, mais on peut ramener ça à un logiciel. Voilà. L'idée, c'est que les enfants, les jeunes, comme ils sont nés avec, ils ont des schémas mentaux qui sont très différents des nôtres. Et en l'occurrence, nous dit Gérard, à 180 degrés des nôtres. Alors 180 degrés, ça fait penser à une révolution, donc ce n'est pas celui qui a écrit « Les révolutionnaires du numérique » qui va être évidemment pas d'accord avec ça. Bien évidemment, il y a une révolution du numérique qui est en cours. Alors, en fait, cette opposition va se matérialiser, cette opposition possible entre les vieux et les jeunes. Les anglo-saxons sont très inquiets dans le monde de l'entreprise depuis 4-5 ans sur cette question. Les digital natives, c'est vraiment quelque chose de dangereux, ça va tout bouleverser dans l'entreprise, ça va être conflictuel. Donc ce n'est pas du tout le credo qu'a pris Gérard Berry, mais derrière cette idée, il y a quand même tout un discours potentiel, c'est est-ce qu'on va se taper dessus? Est-ce qu'on va se taper dessus dans les entreprises? Puisqu'on ne se comprend pas. Alors, c'est surtout dans les endroits où on est obligé d'échanger entre nous, entre les jeunes et les vieux, que ça risque de se passer. Donc dans la relation parent-enfant, évidemment, dans l'entreprise, évidemment, et éventuellement dans la sphère politique. Alors, on a parlé déjà du printemps arabe, donc je vais laisser de côté la partie politique. Je vais d'abord prendre 2 inversions dans la relation parent-enfant, qui seront peut-être un peu différentes. La première, c'est dans les thérapies familiales aux États-Unis, l'un des sujets les plus importants aujourd'hui, les plus récurrents, c'est le BlackBerry, le smartphone. Vous savez, ce petit jeu pour adultes, les gens sont tellement connectés avec que les enfants sont convaincus que leurs parents ne les aiment plus. Et ils en ont la preuve. Leurs parents passent plus de temps avec leur BlackBerry qu'avec eux. Donc on fait des thérapies, vous savez, je m'appelle Gérard, je suis complètement addict à mon BlackBerry. On prend des engagements. Le soir, quand je rentre chez moi, pas plus de 2 fois, je regarde le BlackBerry. Et le week-end, pas plus de 4 fois. Que se passe-t-il? Les enfants pourchassent leurs parents dans les toilettes et les salles de bain, car ils y sont beaucoup plus fréquemment qu'avant pour consulter en cachette. Donc on a effectivement une inversion magistrale du lien parent-enfant en termes de contrôle, c'est les enfants qui contrôlent les parents. Intéressant. Intéressant, sauf qu'à cet instant, on voit que finalement, ce sont les adultes qui ont fait une inversion, c'est un peu tout le monde, mais c'est presque plus les adultes qui ont inversé mentalement les choses que les enfants. Deuxième inversion, on va dire, anecdote un petit peu à réfléchir, c'est que nous nous inquiétons tous de l'avenir de nos enfants. Est-ce qu'ils ne vont pas passer à travers le miroir? Est-ce qu'ils ne sont pas en train de passer à côté de leur vie, à être aspirés par tout ce qui se passe sur les ordinateurs? Bon, moi, mes parents étaient inquiets du temps qu'on passait devant la télé. Et puis, du téléphone, etc. Bon, en l'occurrence, il y a un phénomène qui s'appelle le no-life. On pourrait effectivement passer à côté de sa vie. Mais ça, c'est un terme que les enfants emploient. Si vous voulez discréditer un petit camarade vis-à-vis des autres camarades, et notamment des filles, par exemple, vous prétendez que c'est un no-life, et d'un seul coup, on va voir que c'est vraiment ringard, ça. Bon. Donc les enfants ne sont pas si dangereusement attaqués par ce genre de choses, il ne faut pas forcément le croire. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que finalement, s'ils y passent autant de temps, c'est que peut-être la vie sur Internet est peut-être beaucoup plus intéressante qu'on le pense. Et en l'occurrence, beaucoup plus active. Et peut-être que la vie numérique est beaucoup plus vaste qu'on le pense. J'ai une petite inversion amusante à vous proposer. Dans le numérique, il y a quelque chose, on parlait d'imagerie médicale, qu'on fait depuis très longtemps, à l'occasion des échographies, c'est de numériser une photo du fœtus. Eh bien aujourd'hui, on estime que plus de 50% des images de fœtus s'échangent sur Internet, et particulièrement sur Facebook. Autrement dit, avant que vous soyez né, vous avez déjà une existence numérique. Ça, c'est un bout. Mais il y a l'autre bout. Il y a de plus en plus de gens qui vont devant les tribunaux pour demander, exiger la restitution des données numériques d'un défunt. Ben oui, les données sur son blog, sur son profil Facebook, etc. etc. Et comme je vous le rappelle, hein, avec les flux RSS et tout un tas de choses, le compte en question peut continuer de générer des données parce que vos amis, votre mur Facebook continue de bouger, etc. etc. Donc, vous avez, même quand vous avez disparu, une existence sociale numérique. En termes d'inversion, là aussi, on est éventuellement pas mal. Qui va demander aux tribunaux qui s'échange des échographies? Pas les jeunes, ce ne sont que des adultes. Donc en l'occurrence, ceux qui sont déjà dans l'inversion mentale, on peut dire que dans certains cas, en tout cas, ce sont aussi les adultes. D'où la question, est-ce qu'on est vraiment toujours en contradiction quand les adultes prennent une posture morale pour juger les jeunes? C'est surtout parce qu'on a envie de les juger. Ce n'est pas forcément parce qu'on a des schémas mentaux qui nous emprisonnent. Visiblement, quand il s'agit de s'en débarrasser pour hurler dans un wagon, un train, ça je suis bien d'accord, il n'y a que les vieux pour hurler. On se débarrasse de tout, de la politesse, tout ce qu'on a appris il y a bien longtemps. Donc ça, c'est peut-être dans la relation parent-enfant, il y a des inversions, mais il n'est pas sûr que nous ne soyons pas, nous aussi, sujets à inversion, et auquel cas, on n'est peut-être pas tant en opposition que ça. Alors, derrière ça, je vais revenir un petit peu dans un endroit où on est obligé de se côtoyer, c'est l'entreprise. Avant peut-être de passer à l'entreprise, je voudrais passer un petit peu par un côté politique. On a eu à Deauville le G8. Avant le G8, vous l'avez peut-être vu, il y avait un IG8. Les grands de l'Internet ont causé ensemble et puis ont voulu impressionner un peu les chefs d'État. D'ailleurs, ils se sont rencontrés. Et alors le chef provisoire du G8, notre président, Nicolas Sarkozy, en clôture, a voulu montrer à quel point ils étaient tous conscients de l'importance du numérique. Donc ils ont décidé d'institutionnaliser la rencontre entre les IG8 et le G8. Donc Nicolas Sarkozy a dit, texto, à partir de dorénavant, à chaque G8, les chefs d'État rencontreront les chefs de l'Internet. Vous imaginez l'éclat de rire général sur Twitter, ça a duré un week-end, on s'en est parmi. Les gens se disent, mais est-ce qu'ils nous représentent qui là? Pas nous, j'espère. Bon. Ils n'ont rien compris. Parler aux jeunes comme ça, ils s'en fichent les jeunes, que c'est important le numérique pour les politiques, ils le savent bien. Leur vie, l'économie, ils imaginent travailler dans le numérique d'une manière ou d'une autre, ils passent leur temps sur des objets numériques, leur expliquer que c'est important et qu'ils vont se parler entre eux, enfin, vraiment ça passe au-dessus de la tête de tout le monde. Alors, puisqu'on parle de digital natives, j'ai été chercher, en l'occurrence, un gourou, un certain Mark Prensky, c'est lui qui a inventé le terme de digital natives. Alors c'est un gourou auto-déclaré, hein, donc on peut contester beaucoup de ce qu'il dit. Mais enfin bon, puisque c'est lui qui a inventé le terme, il nous explique que les jeunes sont effectivement très différents de nous. Alors il cite un certain nombre de choses. Ils ont une confiance limitée en l'officiel, l'institutionnel. Ils ont un refus, voire une inaptitude à fonctionner sous relation d'autorité ou sous contrainte de règles. Ils ont une exigence d'alignement entre attentes, valeurs et culture de l'entreprise. Alors, avec ce que je viens de vous raconter sur la petite anecdote sur le IG8, ça, on comprend qu'il va y avoir une distance de plus en plus importante sur tout ce qui est officiel. Et donc effectivement, c'est un élément extrêmement important. On avait l'impression, quand on parle de numérique, dans leur présentation un peu collective, on a l'impression, on parle d'ordinateur, de 0 ou 1, de monde froid. En fait, c'est absolument pas ça pour les jeunes. C'est un monde finalement beaucoup moins rationnel qu'on le pense, beaucoup plus communautaire, où ce qui compte quand j'en reçois une information, c'est qui me la donne. Est-ce que ce sont mes amis, auquel cas je vais la croire, même si elle est peu argumentée? Et si c'est quelqu'un que je ne connais pas, voire même je sens qu'il n'est pas du tout de ma bande, et bien là, même s'il y a des arguments, je ne vais pas vraiment l'écouter. Alors ça, c'est un premier élément. Le deuxième élément, c'est toujours selon Mark Prensky, les jeunes auraient une orientation action, ils seraient complètement dans l'action, avec des objectifs explicités et des exigences de résultats rapides. Oui, si ça ne marche pas tout de suite, ça ne les intéresse pas, donc ils passent à autre chose. Une fois de plus, c'est lui qui le dit. Ils sont habitués au changement et au contexte flou et étendu. Ils ont une capacité au zapping, au multitâche, ils ont une appétence au surf, etc., etc. Alors ça, dans le monde de l'entreprise, ça risque quand même de créer une sacrée inversion. Non, je vous rappelle quand même que les entreprises, on avait un petit problème jusqu'à présent, c'était de décréter le changement. Il fallait absolument des prestations de conseil pour accompagner le changement. C'est évidemment, la résistance au changement, c'était la chose obsessionnelle. Alors à partir du moment où la génération s'installant, on n'a que des gens qui sont totalement instables, il va peut-être falloir créer des prestations de stabilisation. Il pourrait y avoir plus à creuser derrière ça. Troisième élément, la double orientation, les jeunes sont à la fois plus centrés sur le « je » et sur le « nous ». C'est compliqué à comprendre, parce que c'est les deux en même temps. Donc c'est le grand écart. Autrement dit, ils sont beaucoup plus intéressés par, effectivement, sauver la planète, le commerce équitable, etc. etc. Et plus que nous, quand il y a une manif, ils y vont. Nous, c'était commencé d'abord, on verra ensuite. Et en même temps, ils sont beaucoup plus centrés sur eux, un peu comme une bulle, un petit peu de sauvegarde. Alors, dans le monde de l'entreprise, évidemment, quand on va falloir leur dire qu'il faut s'intéresser à la profitabilité de l'entreprise, l'incentive, ça va être un peu dur. Comment s'en sortir ? Pour l'instant, on ne sait pas. Certains supposent que peut-être le jeu va être une manière de régler un petit peu ce grand écart. On va passer plus de temps sous des formes plus ou moins variées de jeu dans le monde de l'entreprise. Alors je vous rappelle quand même que le travail, c'est au départ un instrument de torture. Donc si on passe notre temps à jouer, ça nous promet une inversion assez intéressante. Quatrième inversion potentielle, l'intégration forte entre vie réelle et vie en ligne. Alors nous, on en souffre, en tout cas certains d'entre nous en souffrent, les jeunes pas du tout. Pour une raison très simple, c'est qu'ils ont mis en place énormément de barrières, ils jouent avec extraordinairement bien. Bon, d'abord, quand ils sont en entreprise, puisqu'ils font des choses en dehors de l'entreprise pour le boulot, évidemment, ils s'autorisent à faire pas mal de choses perso au boulot, et comme en plus ils peuvent en faire quatre en même temps, ils ne veulent pas le patron, en tout cas de leur point de vue. Et puis, il y a plein de codes. Ils peuvent effectivement, comme le disait Gérard tout à l'heure, on ne s'appelle pas, on s'envoie un SMS d'abord. Et quand on s'envoie un SMS, on est prié de répondre par un SMS, etc. etc. Donc ils ont plein de codes dans lesquels, auxquels on n'accède pas forcément. Donc là aussi, il y a un sujet d'inversion potentielle important. Cinquième inversion possible, toujours finalement à partir des propos de Mark Prensky, ils ont un besoin de visibilité de ce que font les autres. Alors ça, c'est très intéressant. Il faut absolument qu'ils sachent ce que font les autres, même quand ils ne les voient pas. Et même quand ils les voient, quand ils sont en open space, bon, bah, finalement, ils sont toujours connectés, ils communiquent par email. Alors pourquoi ça ? Bah, effectivement, dans des organisations où on est de plus en plus en travail collaboratif, bah, il est assez intéressant, dans des communautés, il est assez intéressant de pouvoir voir les autres. Ça nous rassure, ça veut bien dire qu'on n'est pas tout seul. Voir les autres, ça veut dire que dès qu'ils vont être en difficulté, avant même qu'ils éprouvent le besoin de demander de l'aide, on va pouvoir voir et les aider. Donc là, on a vraiment des phénomènes tout à fait intéressants. C'est que derrière, il y a une proposition d'organisation totalement alternative. Les gens s'auto-organisent entre eux. Gérard, tout à l'heure, disait « Ah, les jeunes, comment ils s'organisent pour sortir le samedi soir ?» Hein, là, je ne suis peut-être pas tout à fait d'accord. Enfin, il y a cette version-là de Facebook. Mais c'est vrai que si vous voulez avoir l'air d'un martien, demandez à vos gosses, quand ils sortent le soir, n'imaginez pas demander le lundi. Qu'est-ce que vous allez faire samedi ? Ils n'en savent strictement rien. Des fois, vous les prenez la main sur la poignée de la porte, le samedi soir, tu vas où ? Pas par curiosité malsaine, juste comme ça pour marquer un signe d'intérêt. Je ne sais pas. Tu pars et tu ne sais pas. Tu prends la voiture, tu ne sais pas où tu vas. Oui, c'est pas grave, de toute façon, on va changer 5 fois d'avis. On va se communiquer en permanence, on va changer 5 fois d'avis, 5 fois d'endroit, etc., etc. Donc, en permanence, on change. Autrement dit, la chose qui est absolument claire, c'est que la planification, c'est vraiment quelque chose qui les dépasse. L'ordonnancement, tout ça, l'anticipation, ça n'a strictement aucun intérêt. Et le pire, c'est que ça marche. Alors là, on pourrait se dire, mais ça va complètement mettre par terre l'organisation de nos entreprises. Bah, regardez le mot-clé en ce moment qui excite le plus les entreprises, c'est le terme agilité. Qu'est-ce qu'on cherche par là ? On ne voit que ça, des entreprises qui veulent être absolument plus agiles. J'ai commencé ma carrière, d'ailleurs je le salue pour celui qui m'a recruté, dans une direction de la stratégie et du plan. Ça me faisait déjà marrer, c'était il y a quelques années. Il a fallu quelques années pour que ce soit totalement ridicule. Bon, c'est aujourd'hui, effectivement, une direction du plan, ça fait vraiment sourire. On ne peut effectivement plus rien planifier et les entreprises sont probablement en train de basculer. Donc cette inversion-là que les jeunes ont naturellement en eux, ben, peut-être que ce n'est pas si déstabilisant, finalement, dans les jeunes entreprises. Et donc finalement, il y a peut-être une question fondamentale dans les représentations, c'est ce qu'il y a dans la tête des chefs. Et là, il y a peut-être de quoi s'inquiéter. Est-ce qu'effectivement, c'est une question de génération ? Et là, j'aurais tendance à penser que le conflit de génération entre jeunes et anciens, il risque d'être vraiment compliqué à gérer entre les anciens chefs et les nouveaux chefs, enfin ceux appelés un jour à devenir chefs. Et on peut peut-être mettre, ça fera un lien éventuellement avec ce que disait Gérard tout à l'heure aussi, quand on regarde les entreprises qui créent le plus de valeur aujourd'hui, on est obligé de regarder la capitalisation boursière. Et là, on est obligé de regarder qu'effectivement, ce sont des entreprises essentiellement de l'informatique, qui sont dirigées essentiellement par des jeunes, qui passent leur temps non pas avec des schémas mentaux d'avant, mais effectivement avec des schémas mentaux plutôt nouveaux. La planification, ils s'en fichent éperdument. Même le ROI, finalement, c'est quelque chose qui les intéresse pas. Au départ, il n'y a aucune de ces grandes réussites qui a eu un modèle économique, ne serait-ce qu'à peu près dessiné, en commençant. Il a changé déjà 4 ou 5 fois. Et c'est celle qui gagne le plus d'argent aujourd'hui. Donc effectivement, ça nous interpelle quelque peu. Alors Gérard a mille fois raison d'insister sur le fait que nos représentations sont profondément modifiées, qu'elles sont la plupart du temps à 180 degrés de ce qu'on avait avant. Quant à savoir si c'est le numérique qui mécaniquement fait ça ou si c'est aussi la société, bon, laissons le débat de la poule et de l'œuf, en tout cas, c'est un fait. Est-ce que ce ne sont que les jeunes qui subissent ces inversions et les vieux comme nous seraient dans un schéma mental ancien? C'est pas si vrai, ça, me semble-t-il. En tout cas, nous, on a des bugs. De temps en temps, on a aussi des inversions mentales. Alors, est-ce que ça fait un conflit? Est-ce qu'il faut s'en inquiéter dans les entreprises? Je pense que c'est surtout au niveau des schémas mentaux de nos dirigeants qu'il y a à regarder un petit peu ça. Mais il y a quand même une question de fond, c'est comment est-ce qu'on peut changer nos schémas mentaux? L'enseignement de l'informatique, c'est une chose, mais le numérique, c'est quand même éventuellement beaucoup plus vaste que ça. Les enjeux sont beaucoup plus vastes que ça. C'est effectivement pas un outil. Est-ce qu'il y a des savoirs avérés en la matière? Non. Comment transmettre? Est-ce qu'il y a un débat sociétal en ce moment là-dessus? Pas vraiment non plus. Alors voilà un petit peu quelques éléments de fausses contradictions pour peut-être lancer des questions ou des réponses.
Je suis assez d'accord avec tout ça. Je voudrais quand même revenir sur ta dernière phrase, le numérique et l'informatique, c'est pas pareil. On ne peut pas être créateur dans le numérique si on ne comprend pas l'informatique. Il faut se rappeler quand même que les créateurs dont tu parlais d'entreprise, c'est tous des PhD d'universités majeures américaines, sauf ceux qui ont arrêté leur PhD parce qu'ils trouvaient qu'ils n'avaient même plus besoin. Enfin, ils étaient très très bons étudiants, je connais leurs profs, les fondateurs de Google. Et les autres, c'est quand même des PhD, la plupart. Et donc, effectivement, les fondateurs de Google ont fait un truc assez intéressant, c'est qu'ils ont embauché un manager standard. Parce qu'eux pensaient qu'ils avaient besoin d'un manager standard, parce qu'ils n'avaient pas les compétences pour faire ça. Et après, le manager standard, on ne sait pas vraiment ce qui s'est passé, a dit « ils n'ont plus besoin de moi ». Je ne suis pas sûr que l'histoire soit vraie. Mais effectivement, le travail, par exemple, dans une société comme Google est extrêmement différent. Et si vous y allez, vous allez voir, il y a à peu près, le nombre de personnes est assez secret, il y a à peu près 20 000 personnes, mettons, et c'est asiatique 26 ans, ça c'est pas très compliqué, c'est une population extrêmement homogène, asiatique 26 ans, dont on ne sait pas combien de temps elle va rester, d'accord. Et j'ai entendu une très jolie histoire, dont je pense qu'elle est largement vraie, Google essaye de recruter en France, il y en a beau à Paris, et a interviewé un certain nombre d'élèves sortant de grandes écoles qui leur ont posé comme question numéro 1, qui est bien lié à l'enseignement ici, c'est combien de personnes je vais manager. Et on a répondu non, mais c'est pas pour ça, on voudrait que vous bossiez. Ce qui est très différent. Donc le management est une notion très différente là-bas aussi, oui. L'organisation de l'entreprise, elle est un peu compliquée, parce qu'en ce moment, il ne faut pas être chez Google, il faut se tirer chez Facebook vite fait. Donc on est aussi dans des zones de bulle où la rationalité n'est pas forcément présente très longtemps. Enfin, c'est vrai qu'à l'heure actuelle, bosser chez Google, ça fait ringard.
Sur Google, la petite histoire, c'est qu'effectivement, ils se sont réunis, les trois fondateurs, là, il y a peu de temps. Il y en a un qui a pris le pouvoir sur tous les autres, en l'occurrence Larry Page, pour faire un programme assez important avec ceux qui ne se sont pas barrés, justement, parce que c'est inquiétant, pour lutter contre la bureaucratie rampante chez Google. Non, mais c'est pour prendre conscience des vitesses avec lesquelles ça se passe par rapport à des entreprises qu'on connaît par ailleurs.
Bon, on va prendre des questions.